Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'année 2021 commence tout juste et les fêtes de fin d'année sont à peine passées que l'on peut avoir un peu le vertige devant cette année qui s'ouvre. Pandémie, chômage, crise écologique, les nuages noirs ne sont pas partis pendant les fêtes comme par miracle. Alors pour nous aider à être plus assurés, le pape François propose à tous de méditer sur une figure qui en a vu d'autres, si je puis dire. Saint Joseph, père adoptif de Jésus, comme l'on dit. Le fils de Dieu lui-même, rien que cela. Saint Joseph fut un homme au cœur bien accroché, à la vie exemplaire. Une vie qui fut rien moins, dit le pape, qu'un miracle pour Marie et son nouveau-né, laissant entendre ainsi qu'il pourrait en être de même pour nous, de quoi nous remonter le moral. ...2021, l'année Saint-Joseph, deuxième, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église de ce matin. Une fois n'est pas coutume, on fait deux émissions coup sur coup pour essayer d'enfoncer le clou et donc faire écho à cette intention du pape François qui est de faire de cette année 2021, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, pour rappel, une année Saint-Joseph et pour nous aider... Dans ce décryptage d'une lettre apostolique publiée à cette même occasion, Dominique Joseph, vous êtes religieux de la famille Saint-Joseph, prêtre, professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Vous restez avec nous donc aujourd'hui pour continuer à parcourir donc cette lettre apostolique du pape François, Patrice Cordet, un cœur de père, à l'occasion donc du 150e anniversaire de la déclaration de Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle, comme on l'a dit hier. Tout simplement au début, quand on passe une partie de début de cette émission, quand on passe une bonne partie de sa vie à méditer, à réfléchir sur Saint-Joseph, à vouloir le faire connaître, pour vous là c'est l'année. C'est l'année inattendue, non ? L'année bénie, comme on dit.
Oui, l'année inattendue, parce que, comme on l'évoquait rapidement hier, c'est la première fois qu'il y a une année Saint-Joseph dans l'histoire de l'Église. Ensuite, c'est une année, je peux dire en toute modestie, pour laquelle nous avons beaucoup travaillé. Ça fait 2 ans que nous conduisons du lobbying auprès du Saint-Père, de certains cardinaux, de son secrétaire personnel, pour essayer de dire qu'il ne faut pas passer à côté du 150e anniversaire. On avait proposé une année jubilaire. Donc, je ne vais pas dire...
Quand vous dites nous, c'est qui ? C'est les joséphologues les plus connus ou les plus pointus ?
Alors, c'était la famille de Saint-Joseph, donc ma communauté, mais il y avait aussi aux États-Unis, en Italie, en Pologne, des confrères que je suis le modérateur d'une association qui s'appelle Saint-Joseph International et qui réunit des théologiens de différents pays. Pour faire depuis 50 ans, on fait des recherches régulièrement et des publications sur Saint-Joseph. Et donc, on a essayé d'attirer l'attention du Saint-Père. Cela étant, je ne sais pas s'il a répondu à notre demande ou s'il a vu dans notre demande une confirmation d'une intuition qu'il avait lui-même. Parce qu'on sait que le pape est très dévot de Saint-Joseph. On l'a vu évidemment le jour de son intronisation. Mais regardez,
rappelez-nous le jour de son intronisation, qu'est-ce qu'il a fait?
C'était pour la Saint-Joseph et il a fait son homélie sur Saint-Joseph. Et il a rappelé que sur son bureau, il y a une statue de Saint-Joseph qui dort, Saint-Joseph au songe. Et qu'il a pour habitude de glisser les intentions sur un petit billet. Il écrit les problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre sur un petit billet et il les glisse sous la statue de Saint-Joseph qui dort. En lui disant, je ne sais pas comment tu fais dans ton sommeil, mais je sais que tu vas dénouer cette affaire-là.
Vous nous disiez hier que l'Église a beaucoup écrit sur Saint-Joseph. Alors, pour nous qui ne sommes pas, on va dire, du même niveau que vous sur ce sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques-unes des récentes publications, peut-être des précédents papes, ou au moins du XXe siècle ?
Depuis 150 ans, je crois que à peu près tous les papes ont écrit ou ont parlé de Saint-Joseph d'une manière ou d'une autre. On peut penser, par exemple, à Jean XXIII, qui introduit Saint-Joseph dans le canon de la messe en 1962. C'est une grande première, ce qui montre bien que le culte de Saint-Joseph est assez récent, entre guillemets, au sens de l'histoire de l'Église, parce que dans l'Église primitive, on avait des problèmes urgents à résoudre, comme l'humanité et la divinité de Jésus, toutes ces questions qui sont liées directement à la personne de Jésus ou à l'Esprit-Saint ont occupé les théologiens. Saint-Joseph, c'est venu plus tard. Mais ils ont tous parlé. Le pape François rappelait que Pie XII, en 1955, a proclamé Saint-Joseph patron des travailleurs. Donc Pie IX, dont on a longuement parlé hier, qui donc a déclaré Saint-Joseph patron de l'Église universelle. Mais selon moi, le document récent, le plus marquant, le plus abouti, est celui que nous a offert saint Jean-Paul II en 1989, qui s'appelle Redemptoris Custos. C'est une exhortation apostolique qui, en elle-même, est un texte sublime de théologie, d'aboutissement de la théologie sur saint Joseph, mais qui, en plus, est une invitation à comprendre quelque chose qui est vraiment au cœur de nos convictions de notre jeune fondation de la famille de saint Joseph. C'est qu'on ne peut pas comprendre saint Joseph indépendamment de Marie et évidemment de Jésus. C'est pas possible. Comprenez, on peut pas. Et d'ailleurs, c'est vrai de la Vierge Marie aussi, si je puis me permettre. Dans les cours de mariologie, on peut pas se limiter à faire une évocation de saint Joseph. Un homme et une femme ont une influence dans un couple, ont une influence importante l'un sur l'autre. Donc, Jean-Paul II nous a fait un espèce de triptyque magnifique entre Marie, Jésus et Joseph. Et il a baptisé autour du thème de la rédemption. Et il a baptisé Joseph le gardien du Rédempteur. C'est un très très beau titre, hein. Le gardien du Rédempteur, Redemptoris Custos.
Alors vous disiez aussi que cette lettre apostolique, vous trouviez qu'elle avait un très beau titre.
Ah oui, magnifique.
Patrice Cordet.
Oui, oui. Je pense que c'est la plus belle définition qu'on puisse donner de saint Joseph. Il a un cœur de père. Le cœur, c'est ce qui est de plus intime à la personne. C'est ce qui définit la personne et sa mission. Donc qu'est-ce qui définit saint Joseph? Sa paternité. Alors bien sûr, il est père de Jésus parce qu'il est l'époux de Marie, ça renvoie implicitement à la Vierge Marie, mais je crois quand même que cette expression est indépassable parce qu'elle nous montre saint Joseph dans son rapport au Père éternel. Il ne faut jamais oublier qu'un père est toujours un fils, et que pour saint Joseph, sa manière d'être fils, c'est d'être père de Jésus. Il est père de Jésus parce que Dieu le Père le lui a demandé, le lui a confié et l'a préparé pour ça.
Le premier chapitre, donc on commente à cette lettre un tout petit peu dans le désordre, mais enfin c'est presque le seul désordre de cette émission, donc ce sont évidemment des courts chapitres, hein, c'est comme des intertitres plutôt. Et donc Père aimé, et le pape François laisse entendre que voilà, la dévotion à saint Joseph ne date pas d'hier. La confiance du peuple en saint Joseph est résumée par l'expression « ite ad saint Joseph » qui fait référence au temps de la famine en Égypte, quand les gens demandaient au pharaon et il répondait « allez trouver Joseph, faites ce qu'il vous dira ». Ça renvoie à une autre histoire. Bref, au long de l'histoire, nombre de chrétiens se sont adressés comme ça ou tournés vers cette figure. Il cite une sainte, en l'occurrence Thérèse d'Avila, réformatrice du Carmel, qui avait une grande dévotion, semble-t-il, sur saint Joseph. Il y a beaucoup de saints qui ont eu des grandes dévotions à saint Joseph. Vous pouvez nous en citer quelques-uns, peut-être qu'on connaît.
Ah oui, je peux pas tous les citer. C'est presque le contraire. Quels sont les saints qui se sont pas intéressés à saint Joseph, les grands? Je sais pas trop.
C'est-à-dire ceux qu'on connaît, par exemple Mère Teresa, pour les plus connus.
Oui, bien
grande
sûr.
Dévotion à saint Joseph.
Bon, le premier mot, effectivement, et c'est pour ça que le pape le cite, c'est Thérèse d'Avila. C'est le premier nom qui vient à l'esprit. La plupart des monastères qu'elle a fondés, je crois que c'est 18 ou 20, ils sont quasiment tous consacrés à saint Joseph. Ont tous reçu. Mais saint Jean de la Croix, après elle, d'ailleurs, il y a ce récit assez délicieux d'une apparition de saint Joseph.
Apparition à sainte Thérèse d'Avila?
Alors non, ni à sainte Thérèse d'Avila, ni à saint Jean de la Croix, mais à deux frères. En fait, c'est une histoire, je vous raccourcis le contexte, mais c'était après Thérèse. Saint Jean de la Croix avait une mission à faire pour prêcher sur saint Joseph ou je ne sais pas quoi, et il se dit, oh ben, flûte, j'ai autre chose à faire. Et il envoie deux frères pour parler de saint Joseph à sa place. Et en chemin, il y a un homme qui apparaît aux deux frères sur la route et il leur dit « Faites demi-tour parce que vous êtes en danger sur cette route ». Et puis il y a eu un éboulement dans la montagne, ils ont échappé ainsi, mais ils n'ont pas pu aller à destination. Et ils sont revenus et ils ont dit « C'est quand même bizarre cet homme qui était là, qui nous a prévenus du danger ». Et saint Jean de la Croix, intérieurement, a compris, il a dit « C'était saint Joseph ». Et il me fait comprendre que j'ai tort de le mépriser, il me fait comprendre que j'ai pas pris au sérieux les enseignements de Thérèse, et désormais, je serai un grand dévot à saint Joseph. Voilà, un tournant dans sa vie. Donc, pour dire qu'il est vraiment, il s'impose à sa manière, c'est-à-dire sans se montrer, sans faire de revendications, mais il montre qu'il est là, qu'on a besoin de lui. On a saint François de Sales. Évidemment, l'église de la Visitation à Annecy est consacrée à saint Joseph par saint François lui-même. D'ailleurs, la Visitation à saint Joseph pour père, c'est ce qu'il a tenu. Saint Jeanne de Chantal, une très très grande dévotion, évidemment, à saint
Joseph. Et le grand saint François d'Assise, qui aujourd'hui donc a donné au pape François le pape François a donné son nom de pontificat. On sait qu'il avait une dévotion à saint Joseph.
Je reconnais que je ne saurais pas vous donner d'exemple, mais je peux pas dire le contraire.
Bravo, vous auriez pu être jésuite. Je voulais aussi que vous nous parliez des lieux de dévotion, parce que si la première émission avait pour intention, alors évidemment les deux ont pour intention de parcourir cette lettre apostolique, de faire entrer dans cette intention du pape François, etc. Mais hier c'était un peu la découverte, là c'est nous aider à sortir de ces deux émissions avec des billes, si je puis dire, pour entrer dans une dévotion plus palpable. Quid des lieux d'apparition ? En France, quand on connaît un tout petit peu, on sait qu'il y a un lieu d'apparition qui a été reconnu par l'Église, donc à Cotignac. Un certain Gaspard Ricard, au XVIIe siècle, a vu Saint-Joseph. Il y a beaucoup de lieux d'apparition, comme ceux de la Vierge, où en fait ils sont très rares.
Pas autant que ceux de la Vierge. Mais je vais être un peu perfide, je vais vous répondre par une petite transition, en citant un lieu de dévotion qui n'est pas un lieu d'apparition, mais qui a une grande figure de sainteté. C'est Saint-Joseph du Mont-Royal. Parmi les dévots de Saint-Joseph ou les saints dont on vient de parler, il faut absolument parler de frère André.
Canada, Bessette, on est au Canada. Canada,
et c'est sa fête jeudi, hein, après-demain. Donc c'est important de le mentionner. Et c'est probablement le plus grand thaumaturge de l'histoire de l'Église. Hein. Il a fait des miracles par
frère
santé.
André.
Frère André, oui, tout à fait.
Portier de son monastère.
Voilà, les frères de Sainte-Croix. Donc voilà, un lieu qui reçoit, je crois que c'est 2 millions de visiteurs par an.
Il faut que vous en disiez un tout petit peu plus. Donc c'est au Canada, immense. À Montréal, c'est un très grand sanctuaire. C'est le plus grand sanctuaire du monde à Saint-Joseph.
Absolument. Oui, tout à fait.
Il y avait un frère, donc le frère André, père de Sainte-Croix, qui est une congrégation française, et qui était portier, et qui est mort en odeur de sainteté, et qui a donc décidé en fait, de faire construire ce...
Voilà, qui a décidé de la construction de l'oratoire, et il a mis une petite statue de Saint-Joseph. Notamment, il y avait la grande crise financière de 1929, ils n'arrivaient pas à finir le dôme. Alors il a mis une statue de Saint-Joseph au milieu du dôme, enfin de là où on voulait le dôme pour l'église principale, et il a dit, quand on aura marre de te prendre la pluie sur la tête, tu te mettras un toit. Et de fait, et il faut bien voir le contexte, j'insiste, c'était la crise de 1929, il n'y a plus d'argent nulle part, et putain. Le dôme, c'est terminé dans l'année. Donc oui, là, il y a une très grande histoire de sainteté.
Ça fait un peu loin, là, en l'occurrence, pour y aller, si vous aviez des lieux comme ça de dévotion ou d'apparition plus proche.
Revenons à Cotignac, puisqu'on parlait des apparitions, je ne l'oublie pas. Donc oui, il y a Cotignac, enfin Saint-Joseph du Bessillon, exactement. Là, c'est quand même quelque chose qui, pour nous, est cher à l'Église de France, évidemment, hein, et puis à la France tout court, parce que c'est lié à la couronne de Louis XIV, c'est lié à l'histoire de France, avec la consécration au Sacré-Cœur, tout ça, c'est une histoire très très belle. Sinon, vous avez aussi, pas loin, ou pas très loin, vous avez Benoît Rancurel, qui a eu plusieurs apparitions de Saint-Joseph à Notre-Dame-du-Lot. Alors, c'est des apparitions très touchantes, d'ailleurs, parce qu'on a l'impression d'une conversation de voisinage.
C'est des apparitions reconnues par l'Église ?
Oui, tout à fait. Ah oui. Et Saint-Joseph apparaît à Benoît et lui dit « Oh, tu sais, tu devrais être patiente, arrête de t'énerver quand tu fais ton travail. Enfin, » c'est des petites phrases comme ça, vous voyez, pas de grands messages pour le salut du monde, si je puis dire, mais pour apprendre la sainteté au quotidien.
En l'occurrence, à Cotignac, c'est pareil. Hein. Gaspard Ricard, sauf faire de ma part, c'est un homme donc, qui gardait son troupeau, qui avait ses soif. Qui voit donc un homme l'apparaître et il lui dit juste « Je suis Joseph, lève cette roche et tu boiras ». C'est pareil, oui. c'est du concret, non ?
C'est du concret, mais ça concerne. Alors, il est vrai que cet homme mourait de soif, qu'il avait soif, il fallait urgemment lui donner de l'eau. Donc, dans ce sens-là, c'est concret. Mais il y a quand même une portée très grande, d'abord symbolique au plan de la foi, puisque c'est la foi qui permet de soulever des montagnes. La confiance en Saint-Joseph lui a permis de soulever un rocher qui n'était pas possible de soulever. Et quand il est allé porter la nouvelle au village, les gars sont venus, à 8, ils n'ont pas réussi à déplacer le rocher. Hein. Donc, c'était un miracle proprement dit, au sens d'un appel à la foi, à faire confiance à ce que la foi peut faire. Mais, comme je vous disais, c'est lié à l'histoire de la consécration de la France au Sacré-Cœur, à la naissance de Louis XIV. Il y a quelque chose qui concerne le royaume de France et la place de la France dans l'Église. Vraiment, Cotignac, c'est important au sens vraiment général de la nation française. Alors que les apparitions de Saint-Joseph à Benoît Rancurel, c'est vraiment pour lui apprendre à garder ses vaches. Hein. Il n'y a pas plus d'ambition que ça dans le message.
Alors, on pourrait en citer d'autres, mais c'est peut-être pas forcément le propos. Avant qu'on se plonge plus avant donc, dans ce texte, et pour continuer à faire écho donc, à la lettre apostolique du pape François Patrice Cordet, un cœur de père, rentrer dans cette confiance du peuple en Saint-Joseph, résumé par cette expression « ite ad Saint-Joseph »,« aller à Joseph ». Je ne sais pas, qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour découvrir aussi le pape François, cette expression « Saint-Joseph » est la charnière qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça peut paraître parfois même avoir une relation avec Dieu, avec le Christ, ça peut paraître à beaucoup compliqué. Alors Saint-Joseph en plus, peut-être qu'on met la barre trop haut. Qu'est-ce que vous nous donneriez comme première piste ou premier conseil spirituel ?
Pour aller à Joseph, je crois que le premier conseil, c'est d'ouvrir les yeux. Vous comprenez, c'est pas comme si on jouait aux poupées russes en disant « Si vous voulez aimer Jésus, il faut aimer Marie, parce que Marie va vous conduire à Jésus. » Mais si vous voulez aimer Marie, ah ben alors il vous faut aimer Joseph, parce que Joseph va vous conduire à Marie et à Jésus. Et on joue pas aux poupées russes, c'est pas de cet ordre-là. Il faut vraiment comprendre que Saint Joseph, c'est l'homme du silence, l'homme de l'ombre. Et on ne fait pas connaissance avec quelqu'un qui se tient volontairement dans l'ombre en amenant des projecteurs. Ça marche pas. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par la zoologie et que vous voulez voir des chauves-souris au fond d'une grotte, ben vous mettez des lunettes infrarouges ou je ne sais pas quoi. Vous descendez là où elles sont et vous vivez dans leur milieu naturel. Et là, je crois qu'on a la porte d'entrée dans le mystère de Saint-Joseph et de la Sainte Famille à Nazareth. La gloire de Dieu n'est jamais aussi intense que quand elle se fait aveuglante. Regardez dans les prières, quand on fait nos prières au ciel en disant « je voudrais grandir en vertu », regardons bien quelles vertus on demande. En général, on demande des vertus visibles. On dit « oh, que j'ai la charité, que je puisse faire des œuvres de charité », et en sous-main, on se récupère avec un besoin de reconnaissance. Et tout le monde dira « oh, qu'il est charitable celui-là, mais qui est-ce qui demande le don de piété ?» Qui est-ce qui demande de savoir faire sa prière de tout son cœur ? Je ne dis pas qu'on ne le demande pas, hein. Mais je dis, dans la spontanéité, on cherche la lumière, c'est-à-dire on a une récupération dans notre besoin d'ego. Saint Joseph en est totalement dépourvu. Lui, il veut descendre dans le mystère de Dieu, exactement où Jésus nous entraîne. N'oublions pas Saint Jean au chapitre 17, quand la grande prière avant la Passion, Jésus crie vers le Père en appelant sa glorification. Et il réclame la gloire qui était la sienne dès avant le commencement du monde, c'est-à-dire il demande à être de nouveau caché dans le sein du Père. C'est ça le désir. Et c'est là où la gloire est la plus intense, et c'est là où elle se fait d'une manière mystérieuse, ténèbres, non pas les ténèbres du péché, mais l'excès de lumière provoque pour nous une saturation qui la rend invisible en quelque sorte. Et donc, Saint Joseph, c'est celui qui vit là, au plus intense de l'amour du Père, au plus intense de la gloire de Dieu. Et donc, il disparaît dans cette lumière-là.
Donc, le premier conseil spirituel, ça serait quoi ? D'apprendre à voir ce qu'on ne voit pas, c'est ça ?
Voilà. Apprendre à voir ce qu'on ne voit pas, et on ne le voit pas parce qu'on se regarde. Donc, arrêtons de nous regarder et recherchons ce qui est petit, ce qui est caché, ce qui est invisible. Et on va se rendre compte qu'il y a là quelqu'un qui est agissant, qui nous protège, qui nous aide à éviter des pièges de l'ennemi, qui prépare le terrain pour qu'on puisse suivre Jésus plus facilement. On va découvrir Saint Joseph à l'œuvre.
Allez, on va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour continuer de parcourir cette belle lettre à Patrice Cordet du pape François.
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
2021, l'année Saint-Joseph, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On parcourt la lettre apostolique du pape François publiée le 8 décembre dernier, Patrice Cordet, un cœur de père, jour où il a déclaré donc une année Saint-Joseph pour toute l'Église universelle. Et nous sommes en compagnie de Dominique Joseph, qui est religieux de la famille Saint-Joseph, prêtre et professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Toulouse. Dans cette lettre apostolique, si l'on continue donc à avancer dans notre lecture, le pape François nous parle d'un père au courage créatif. Laissant entendre que aussi en ces temps particuliers de la créativité, il faut en avoir. Comment est-ce que vous avez compris cet intertitre, ce que le pape François veut dire, quelle est son intention en parlant de ce père au courage créatif?
Je crois qu'il faut prendre en considération le grand souci de la protection du faible et du petit. C'est vraiment ce qui est au cœur de ce numéro 5. Et on voit dans la conclusion, par exemple, il dit « Nous devons nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie. » Donc c'est ce qu'il y a de plus petit, de plus précieux au cœur du Père. Comment est-ce qu'on s'investit? Et vient là la notion de créativité, ou plus exactement de courage créatif. C'est-à-dire, non pas que nous avons des inventions humaines, non pas que nous faisons des expérimentations hasardeuses, mais que nous avons le courage d'être suffisamment disponibles à la nouveauté de l'Esprit-Saint pour mettre en œuvre ce qu'il invente pour notre temps. C'est l'amour qui invente, c'est pas nos petits cerveaux. Et donc il faut avoir le courage de dire à l'Esprit, quoi que tu me demandes, je le ferai. Quoi que tu me montres, je le verrai. C'est très facile de s'aveugler, surtout quand on a des solutions toutes faites ou des schémas qui sont pré-explicatifs.
Alors juste dans son propos introductif, le pape François laisse bien entendre qu'il n'a pas déclaré cette année Saint-Joseph pour rien, que c'est le fruit d'une méditation à l'occasion de ce premier confinement, que ça lui est venu comme une intuition spirituelle. Est-ce à dire que cette créativité de Dieu, on peut quelque part faire confiance à Dieu en ces temps de pandémie, qui pour certains se traduit de manière vraiment très douloureuse, hein, chômage ou parfois plus grave, Dieu au milieu de ça peut tracer des chemins inattendus, c'est ça qu'il faut entendre ?
Exactement, exactement. D'ailleurs Jésus l'a dit, je suis le chemin, ce qui veut dire il n'y a jamais d'impasse, il y a toujours un chemin. Simplement, nous sommes dans des circonstances historiques et on a de bonnes raisons de croire que ça ne va pas s'arranger tout de suite, où de nombreuses impasses humaines se manifestent de manière angoissante ou oppressante. Il y a des artisans qui sont au bord de la faillite, il y a des familles qui sont au bord de la rupture. Je vois bien les appels téléphoniques que nous recevons au monastère, il y a des détresses de plus en plus fortes qui s'expriment, des gens qui sont au bord de la dépression parce qu'ils n'ont plus de vie d'équilibre social. Alors on peut avoir l'impression de dire on est confiné, c'est-à-dire la vie est étouffée. Eh bien, cela est toujours une issue. Dans ces situations-là, Dieu ouvre toujours une issue. Le meilleur exemple est peut-être celui d'Abraham. Il est dans une famille complètement refermée sur elle-même, en train d'étouffer, et Dieu lui dit « Je vais t'indiquer un pays où tu iras ».
Il y a une phrase comme ça moi qui m'a frappé, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Et un peu plus tôt dans le texte, une lecture superficielle de ces récits, donc c'est les récits qui concernent la fuite en Égypte, récits qui concernent donc aussi Joseph, donne toujours l'impression que le monde est à la merci des forts et des puissants, mais la bonne nouvelle de l'évangile est de montrer comment malgré l'arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Est-ce que vous pouvez éclairer ça? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on médite un peu à l'occasion de Noël, à la fois il y a les saints innocents et puis à la fois il y a cette petite famille là qui part avec son âme pendant la nuit. On se dit que Dieu quand même a des drôles de manières de diriger le monde.
Oui, il dirige le monde. Je crois que la grande question de toute l'histoire biblique et donc de nos vies, c'est comment cela va-t-il se faire? Parce qu'à vue humaine, ça n'est pas possible. Comment cela va-t-il se faire? Et l'exemple que vous citez est tout à fait approprié, le massacre des saints innocents et la fuite en Égypte. On peut se dire, ça part mal. Le Messie, fils de David, qui est expatrié. Et je pourrais dire un peu perfidement, ça part mal et puis ça finira mal parce qu'il va être effectivement mis à mort. en dehors de Jérusalem et livré à la mort par les nations. C'est-à-dire qu'il a été rejeté par son propre peuple, même pour sa mort ou jusque dans sa mort. Donc oui, à vue humaine, on a l'impression que c'est les puissants qui mettent le monde et qui le font à leur image. Mais ils se prennent toujours à leur propre aveuglement. Ça ne dure jamais. Et donc, dans cette histoire...
Ça ne dure jamais, mais l'iniquité perdure, par contre.
L'iniquité perdure. Ça, c'est le mystère. C'est le mystère du mal pour lequel il n'y a pas de réponse de toute faite. Et que Jésus dit, le bon grain et l'ivraie doivent grandir ensemble. Ce n'est pas à vous de les départager. Il y a un temps où ça se fera. On peut trembler, il y a de quoi, mais au moins on sait que Dieu ne se laisse jamais vaincre, ne se laisse jamais dépasser par le mal. Vous savez, il y a cette anecdote dans la vie de Padre Pio qui fait trembler, mais qui en même temps dit cette confiance. Quand on a annoncé à Padre Pio l'accès au pouvoir d'Hitler, il a fait « pouf, ça ne durera pas ». Mais c'est vrai, ça n'a pas duré 5 ans, c'est rien du tout. Mais alors, quelles 5 années, c'est terrifiant, ça nous fait encore trembler aujourd'hui. Mais voilà, il y a quelque chose dans cet excès de mal qui nous semble invincible, qui n'est pas du tout une limite pour Dieu. C'est au cœur de nos nuits, je dirais même que c'est avec la matière de nos nuits qu'il fait le jour de Bethléem, qui fait le jour de la résurrection.
Si on continue la méditation du pape François là, donc sur ce père au courage créatif, toujours en prenant Joseph comme exemple, si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, mais qu'il nous fait confiance, qu'il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver. Donc on a notre part à prendre, à faire. Et là, le pape François fait qualifie quelque part ce courage créatif en rappelant ce passage dans l'Évangile avec ses amis du paralytique qui donc font passer leur ami par le toit pour le présenter à Jésus. Est-ce que vous pouvez commenter un peu ce passage où là, c'est comme le moment où il précise le plus son propos ?
Oui, je crois que c'est lié aussi à la notion d'audace qui revient dans ce texte. On sanctionne les impasses dans lesquelles nous sommes pas volontiers par une impossibilité qui est liée à l'extérieur, qui n'est pas liée à nous. Vous voyez, on pourrait dire, si j'étais riche, vous voyez, si je gagnais au loto, c'est sûr que je pourrais vivre autrement. Et donc, on dit la situation dans laquelle nous sommes, par exemple la pauvreté, en invoquant une impossibilité qui ne dépend pas de nous. Et l'exemple des paralytiques dit, y a trop de monde, on ne pouvait pas avancer. Ben oui, mais vous pouviez monter sur le toit. Il y a quelque chose que vous pouviez faire. Est-ce que vous l'avez fait ? Et je crois que c'est vraiment ce changement de regard-là et qui est sanctionné ou qui naît sur le fond de la confiance que Dieu place en nous. C'est tellement important de faire confiance en Dieu, mais il ne faut pas oublier que Dieu nous fait confiance. Et il dit, tu peux faire quelque chose, il y a quelque chose qui est à ta portée. Alors on crie vers le ciel en disant, Seigneur, interviens, il y a trop de monde, je ne peux pas amener mon ami. Et puis il y a 4 gars qui sont là et qui disent, oui, on va passer par le toit. C'est pas si compliqué que ça finalement. Il suffit d'y penser, il suffit d'oser. Donc, le Saint-Père nous dit, ne dites pas que Dieu vous abandonne. Probablement, il attend que vous voyez que quelque chose est à votre portée. Alors, voyez-le et faites-le.
Un autre passage, nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces, donc Jésus, Marie, qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, ça vous le disiez tout à l'heure, et le pape François qui invite donc à réfléchir, comme dans Fratelli Tutti, et puis comme fil rouge de tout son pontificat, à partir des périphéries, donc à partir, en l'occurrence, donc des nécessiteux, des miséreux, des exilés, des affligés, des pauvres et des moribonds. C'est pourquoi l'Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en eux une préférence, il s'identifie à eux personnellement. Ce qui m'est venu quand même juste pour finir, avant peut-être de faire une deuxième pause, c'est quid de Joseph ? Quel a été son courage créatif ? Parce qu'on disait hier qu'il a eu des songes, et puis il a pris la mère et l'enfant sous le bras, si je puis dire. Quelle a été la créativité de Joseph, en l'occurrence ? Il a été aidé, lui, ou à quel moment a-t-il fait preuve de créativité ?
Tout le temps. Tout le temps. Simplement, notre curiosité n'est pas satisfaite. Autant dans l'exemple que donne le pape, on voit les 4 copains qui passent par le toit, autant à aucun moment on ne voit comment Joseph s'y est pris pour bâtir la crèche, par exemple. Mais il a passé son temps à tout construire de zéro. Il est arrivé à Bethléem avec sa femme enceinte, il a fallu faire un abri. Il est arrivé en Égypte, il a fallu trouver une maison, s'installer, trouver à gagner sa vie en louant ses services. Comment est-ce qu'il s'y est pris? On n'en sait rien. Et puis de nouveau, il faut partir et de nouveau repartir et arriver à Nazareth où probablement son atelier était bien poussiéreux, sa maison avait peut-être été condamnée par des voisins en se demandant s'il allait revenir de sitôt. Il ne faut quand même pas oublier, c'est une parenthèse, mais la petite enfance de Jésus est égyptienne, c'est magnifique. Hein, il a appris à marcher, il a appris à parler sur les bords du Nil. Donc à Nazareth, on devait se dire, bah, finalement, ils se sont peut-être bien plus là-bas et puis on ne sait pas si on les reverra. Donc on arrive, il faut remettre la maison en route, il faut recommencer. Comment est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais il l'a fait. Il l'a fait.
Est-ce que ça ne renvoie pas à une chose, en fait? C'est-à-dire qu'avec Saint-Joseph, on fait face à un grand mystère. C'est presque la scandaleuse confiance, en fait, que Dieu nous fait. C'est pas, dans le fond, une des difficultés du christianisme qui fait qu'on a du mal à rentrer dedans jusqu'au bout. C'est que Dieu fait confiance à Joseph et Joseph finit par être, dit le pape François, en fait, le vrai miracle pour sa mère et l'enfant, laissant entendre qu'il peut en être de même pour nous. Quelle responsabilité, quand même. C'est...
Oui, oui, là, il y a une très forte audace qui est traditionnelle, hein, qui n'est pas... Le pape François s'inscrit dans la tradition quand il parle comme ça, en baptisant Saint-Joseph comme le sauveur de Jésus. Donc le sauveur du sauveur. Hein, il dit c'est un miracle qui est le sauveur de Marie et de Jésus. Donc oui, il y a quelque chose qui fait qu'on n'ose pas être chrétien, qu'on n'ose pas aller jusqu'au bout, parce que nous rêvons d'une religion, ce que nous reprochons habituellement à l'Église prouve que nous lui reprochons de ne pas être une religion facile. C'est-à-dire une religion où on nous dicte « tu feras ci, tu feras ça, et puis tu seras en règle et puis tu auras ta récompense ». On aimerait bien rentrer dans ce schéma qui est un schéma de servilité, mais pas d'enfance.
Voir Dieu s'occupera de tout et on fera pas notre part.
Ben voilà. Ben si, mais notre part, elle est codifiée. Hein? Tu feras un pèlerinage à pied jusqu'à Jérusalem et puis tu seras sûr d'aller au paradis. Oh ben, ça serait bien. On aimerait bien quelque chose de confortable. C'est pas drôle, c'est pas confortable d'aller à pied jusqu'à Jérusalem, surtout de chez nous. Mais en même temps, c'est pas si compliqué. Et puis une fois que c'est fait, on est débarrassé et on est sûr d'être en règle. Or, le Seigneur nous prend pas comme des esclaves, mais comme des fils. Il nous appelle des amis. Et donc c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'alliance et pas de soumission. Et dès lors, cela sollicite notre responsabilité et notre créativité.
Et c'est ce que vous dites aussi à toutes les personnes qui toquent à la porte du monastère. Vous disiez de plus en plus en ces temps de pandémie ou de difficultés, ça peut justement être un peu scandaleux que de leur répondre ça à toutes leurs peines. Vous leur dites, mais Dieu vous fait confiance, un chemin va se dessiner. Vous les renvoyez quelque part aussi à leur responsabilité?
Bien sûr, bien sûr. Pas d'une manière aussi brutale que nous le faisons ici, parce qu'il n'y a pas de souffrance personnelle qui d'abord doit être accueillie, qui d'abord doit être entendue et qui doit être honorée, c'est évident. Mais dans toute situation désespérée, il y a toujours quelque chose qui est à notre portée. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu nous respecte tellement que même pour nous sauver, il demande notre collaboration. On ne peut pas se sauver par soi-même. Par lui-même, l'homme est fichu, complètement fichu. Donc il faut que Dieu intervienne. Mais cette intervention ne se fait pas sans demander notre collaboration, l'infinie délicatesse de l'amour. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas voir la religion comme un système légaliste, parce que c'est une histoire d'amour et on ne peut répondre à l'amour que par l'amour. Il n'y a pas d'autre réponse à l'amour que l'amour. Or l'amour, c'est un don de soi, c'est une mise à disposition de soi, totale, sans rien retenir. Et donc c'est très exigeant, parce qu'on perd tout.
Joseph, le miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. On va faire donc une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour continuer à parcourir cette lettre apostolique. Patrice Cordet, fin de lecture, belle fin de lecture. Joseph, père travailleur et père dans l'ombre, faisant écho d'un ouvrage que le pape François aime beaucoup, semble-t-il, intitulé « L'ombre du Père ».
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
2021, l'année de Saint-Joseph, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce mardi matin. En cette rentrée 2021, on continue notre lecture suivie donc, de cette lettre apostolique pour ceux qui nous rejoindraient, publiée par le pape François le 8 décembre dernier, Patrice Cordet, un cœur de père qui parle de Saint-Joseph. Et avec nous, Dominique Joseph, religieux de la famille Saint-Joseph, prêtre et professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Toulouse. Les deux derniers chapitres, c'est ceux qu'on va parcourir, avant peut-être de donner quelques pistes à la fin ou de prolonger les conseils spirituels de ce début d'émission, sont intitulés « Père travailleur » et « Père dans l'ombre ». Alors, « Père travailleur », c'est une autre grande tradition dans l'Église, tout simplement. Ça ne surprendra peut-être pas certains auditeurs, mais d'autres ne le savent pas, il faut le rappeler. C'est le saint patron, Saint-Joseph, des travailleurs. Le Père de Jésus a travaillé et l'a initié au travail. Quelle importance ?
Primordial parce que ça nous rappelle que le travail est une bonne chose. Souvent, je dis en plaisantant, la preuve que je ne suis pas fait pour le travail, c'est que ça me fatigue. Et de fait, c'est une conséquence du péché originel. Mais ce n'est pas le travail qui est une conséquence du péché, c'est la fatigue. Le travail est bon et il est fait pour l'homme, et c'est une bonne chose que de le redécouvrir. Et donc, grâce à l'atelier de Saint-Joseph, à Nazareth, nous pouvons passer de, si j'ose dire, l'ancien régime, c'est-à-dire le régime d'Adam, où le travail est pesant, où le travail est fatigant dans tous les sens du terme, au régime de la rédemption, c'est-à-dire que Jésus, travaillant dans l'atelier avec son Père, lui-même prend la sueur sur son front, prend la fatigue sur ses épaules et sauve le travail. Et nous rappelle la grandeur, la dignité de l'homme à son travail. Et c'est là que Saint Joseph a une place particulière, la place de charnière, comme dit le pape François, c'est-à-dire que à la fois il a travaillé avec Jésus, ils ont travaillé ensemble, littéralement. C'est le collaborateur de Jésus dans cet atelier. Mais avant Jésus, il travaillait déjà. Et il travaillait déjà en vue de Jésus, car tout dans la vie de Saint Joseph, est orienté vers le Messie et le service de Jésus. Donc il était déjà, lui, en sorte de précurseur, en sorte de prophète travailleur, il était déjà, lui, en train d'accueillir ce grand mouvement de la rédemption dans le travail de ses mains sur son propre établi.
Et c'est ce que dit Léon XIII dans cette première encyclique sociale, Rerum Novarum, c'est le pape François dit, le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise Saint Joseph et qui est mis en évidence depuis la première encyclique sociale, Rerum Novarum de Léon XIII.
Voilà, c'était en 1891. Oui, c'est ça qui montre que le travail est participation à l'œuvre du salut. Le travail, c'est extrêmement noble. Et il faut quand même regarder dans la tradition biblique, que ce soit les psaumes, c'est peut-être l'exemple le plus évident parce qu'on prie les psaumes tous les jours, mais regarder le ciel, ouvrage de tes doigts. Ouvrage de tes doigts. Donc on présente le créateur du ciel et de la terre comme un artisan. Et littéralement, Dieu s'est fait artisan. Et Joseph est vraiment artisan, mais Jésus est vraiment artisan. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est lié au salut et qui est lié à la ressemblance de l'homme avec Dieu.
Autre passage, le travail devient participation à l'œuvre même du salut, occasion pour hâter l'avènement du royaume, dit le pape François, développer les potentialités et qualités personnelles en les mettant au service de la société et de la communion. Et un peu plus loin, la personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. Étant entendu, on l'a pas dit, hein, que le travail est à entendre au-delà de l'activité salariée. Hein, mère de famille travaille d'une certaine manière, un retraité qui se donne sans compter, travaille aussi. Alors, dans ce père travailleur, puisque le pape François nous propose en fait Saint-Joseph comme figure, on va dire, à laquelle un peu nous raccrocher en ces temps de pandémie, on peut trouver quand même qu'il y a quelque chose, excusez-moi hein, de parler comme ça du pape, mais d'un peu gonflé, comme on peut le lire dans d'autres discours, c'est-à-dire qu'au moment où les chiffres du chômage la grande misère dans le monde du chauffage explose ou vont de plus en plus exploser. Le pape François, lui, ne cesse de rappeler, alors il ne le dit pas dans ce texte, mais il l'a dit en bien d'autres circonstances, que les trois urgences sont les trois, ces fameux trois T, toit, travail, terre. Chaque homme devrait avoir un toit, un travail et un petit lopin de terre. Comment entendre cet appel? Il fait tellement confiance à Saint-Joseph qu'il va nous résoudre le problème du chômage, c'est ça?
Alors, s'il y avait une baguette magique, on l'aurait sans doute trouvé. Hein. Je crois que les manières du Seigneur sont éprouvées. On sait bien qu'il n'aime pas ce genre d'intervention lumineuse et éclatante. Mais quand même, voyons ce qu'il y a derrière. C'est évident que quelqu'un qui voit son commerce contraint de fermer ses portes, de refuser des commandes, etc., peut dire « Mais moi, je demande qu'à travailler. Ben, » vous avez tout à fait raison. « Mais moi, je demande qu'à travailler. » Mais est-ce que la lecture doit être uniquement celle du monde économique et social? Je crois que là, il faut prendre le travail, et vous l'avez très bien rappelé, ce n'est pas que le travail salarié, dans sa dimension anthropologique, ce qui fait partie de notre identité et de notre vocation. Et nous qui suivons la règle de Saint-Benoît, dans la famille de Saint-Joseph, je crois qu'on expérimente à la mode de Nazareth cette dimension particulière du lien entre la prière et le travail.
Et en quoi ça rend le propos du pape moins scandaleux, entre guillemets, ou moins choquant? C'est-à-dire à nous inviter à nous concentrer, à faire en sorte que tout c'est du travail au moment où on perd notre boulot.
Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a deux questions en fait dans la vôtre. C'est-à-dire qu'il y a celle du travail qui fait que c'est un rapport humain à Dieu, c'est un rapport à la présence de Dieu. Ora et labora, ça veut dire que le travail est une prière. Et ça veut dire que la prière est un travail, les deux. Et donc, il faut prendre ça au sérieux et s'y investir pour ce que c'est. Et puis, il y a la question de la justice, et notamment de la justice sociale. Mais vous voyez que dans une situation d'injustice sociale, par exemple, je tiens un restaurant et je n'ai pas le droit de travailler, il y a une injustice sociale là derrière, ça ne supprime en rien ma dignité humaine, ça ne supprime en rien ma capacité d'unir le travail et la prière. Car dans les contraintes qui me sont imposées par l'État, que je les trouve injustes ou quoi, c'est un autre débat, il y a quand même matière à vivre saintement ces épreuves et à trouver un travail qui sera, eh bien, pas celui que j'aimerais pouvoir vivre, c'est pas celui que j'aimerais pouvoir développer pour faire vivre ma famille, mais qui peut exister quand même.
Et si vous deviez prendre l'exemple à la première personne, vous me disiez donc en antenne que votre monastère ne pouvait plus accueillir depuis un an de retraitants, que c'est la principale activité, votre monastère. Ça veut dire quoi, du coup, si vous parlez de vous? Alors, j'imagine que vous avez des petits travaux quand même, vous avez des ateliers, peut-être, ou des choses comme ça.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la partie pour laquelle on n'a pas de réponse. L'année dernière, je crois qu'on n'a pu faire que 2 retraites dans l'année. C'est quand même notre revenu important vient des retraites. Donc, pour nous, nous sommes dans une situation critique, c'est sûr. Et donc ça, on ne peut pas le résoudre de nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui avons pouvoir de dire qu'on a de nouveau droit de cuisiner des repas pour les pèlerins. Ça ne dépend pas de notre ressort. Donc on peut le confier à la prière, on peut faire les astuces qu'on peut essayer d'inventer avec des séjours à la journée en disant « amenez votre pique-nique » ou je ne sais pas quoi. Mais enfin maintenant, c'est l'hiver, c'est plus difficile. On peut trouver le système D. Mais ça, on sait bien faire en France, le système D, ce n'est pas tellement un problème. Mais on peut aussi voir les chemins de la providence. Et pour nous, alors c'est sûr qu'on est dans une situation particulière puisqu'on est une communauté particulière, une communauté religieuse, mais on a vu par exemple que la diffusion des retransmissions en direct de nos offices sur YouTube crée une communauté de prières et une solidarité qu'on n'avait jamais éprouvée jusqu'à présent. Et si je faisais allusion aux personnes qui téléphonent, c'est les personnes qui téléphonent, c'est des personnes qui ne nous connaissaient pas ou bien qui n'étaient jamais venues au monastère, qui n'étaient jamais venues prier Saint-Joseph et qui le découvrent par ces retransmissions.
Donc vous continuez à travailler, mais autrement.
Donc on fait un travail, mais ce n'est pas pour ça qu'on gagne notre vie. Hein? Et donc quand je passe une après-midi à répondre au téléphone, eh ben, ce n'est pas ça qui va m'aider à payer la sécurité sociale.
Donc vous voulez dire que vous ne perdez pas votre dignité, c'est ça que vous voulez
voilà.
dire. Et c'est ce qu'on entend dans le propos du pape François. Alors, dernier sous-titre, le père dans l'ombre. C'est un qualificatif qui revient souvent à propos de Saint-Joseph. Là, il cite un écrivain polonais. Alors, je vous laisserai donner son nom parce que j'ai peur de l'écorcher.
Non, allez-y, je préfère qu'on se moque de vous plutôt que de moi.
Jan Dobraczynski,
très bien.
Qui a écrit un livre qui s'appelle « L'ombre du père ». Il reprend donc d'une certaine manière ce titre. Donc cet écrivain polonais, le pape François, racontait la vie de Saint-Joseph sous la forme de roman, avec l'image suggestive perspective de l'ombre, il définit la figure de Joseph qui est pour Jésus l'ombre sur terre du Père Céleste. Et puis un peu plus loin, laissant entendre que cette ombre, c'est quelque chose que l'on découvre aussi, on ne naît pas père, on le devient. Pourquoi le pape finit en fait par dire vous n'êtes pas le pape, donc vous n'avez pas forcément... c'est difficile peut-être de rentrer dans sa pensée, mais ça aurait pu être le titre en fait de sa lettre apostolique. Il aurait pu commencer par ça, mais il finit par ça.
Oui, mais je crois que ce qu'on trouve de plus important, c'est en général ce qu'on présente en dernier, hein, c'est ce qu'on veut qu'il reste dans la mémoire, c'est ce qu'on dit en dernier. Donc là, il y a un procédé rhétorique assez classique, et il veut nous parler de Joseph comme père. D'ailleurs, les 7 petits paragraphes ont tous pour titre père, hein. Père de tendresse, père dans l'ombre, père dans l'accueil. C'est Joseph comme père qui veut nous montrer, et c'est au mystère de la paternité que le pape veut nous sensibiliser. Donc là, on voit d'abord le souci du pape en tant que pasteur, qui voit le monde en souffrance, et notamment en souffrance de paternité. Il voit des familles déstructurées, il voit des enfants à qui on refuse d'avoir un père, il voit des jeunes qui se développent en révolte contre les figures paternelles ou sans référence paternelle alors qu'elles en réclament. Et il constate que dans l'Église aussi, on souffre de cela. Et je trouve ça particulièrement touchant. Il dit « Même l'Église d'aujourd'hui a besoin de père », nous dit-il. Et quand il pense ça, je vous avoue que, très sincèrement, à la première lecture, quand j'ai lu cette phrase, j'étais dans la dynamique des paragraphes précédents, j'ai cru qu'il parlait des papas, des hommes qui ont des enfants. Or, immédiatement, il prend l'exemple de saint Paul et du ministère ordonné. Chaque prêtre, chaque évêque devrait pouvoir dire, comme saint Paul, « C'est moi qui vous ai engendré dans le Christ ». Et donc, quand il dit « Même l'Église d'aujourd'hui a besoin de père », je crois que le pape nous invite à renouveler notre rapport à nos évêques, notre rapport aux prêtres, qu'on appelle père, c'est-à-dire à qui on demande d'être une manifestation de l'unique paternité qui est celle du Père éternel. Il y a quelque chose de cela à redécouvrir, semble nous dire le pape François dans cet exposé.
En période de crise, on a besoin d'un père, en fait.
Oui.
Plus naturellement, on aurait dit, en général, tout le monde dans les situations extrêmes finit par crier maman plutôt que papa. Mais...
oui, peut-être que ça n'empêche pas. Mais je crois que pour nous, ce qui est amusant, parce qu'il y a un contraste culturel, hein, c'est-à-dire que nous sommes dans une société qui se construit en rejetant le père, hein, en rejetant Dieu et l'image du père. On mène à ça, on tend à ça, enfin, on essaye par tous les moyens. Et donc, pour nous, la crise, elle est liée à la paternité, et la solution, c'est la mort du patriarcat, ou je ne sais pas quel slogan on entend encore. Bon. Mais on a vu que l'Église, c'est le contraire. Quand elle est dans une situation, nous avons rappelé hier l'épisode de la vie de Pie IX, quand on est dans une situation qui est une impasse mortelle, l'Église a le réflexe de crier vers saint Joseph, de demander l'intervention et le secours de son père. Alors, c'est ce que fait le Saint-Père.
Le monde a besoin de prière certainement, mais le monde a besoin de père, dit le pape François. Il refuse les chefs, il refuse celui qui veut utiliser la possession de l'autre pour remplir son propre vide. Il refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec destruction. Et un peu plus loin, c'est presque les mots finaux de cette lettre apostolique. Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d'exercer la paternité, nous devons toujours nous rappeler qu'il ne s'agit jamais d'un exercice de possession, mais d'un signe qui renvoie à une paternité plus haute. Dominique, Joseph, dans les quelques minutes qui nous restent, allez, un autre conseil pour sortir de cette mini-série d'émissions avec quelques billes pour cette année Saint-Joseph. Avant de parler de votre communauté, quel serait votre autre conseil spirituel ?
Pour prier Saint-Joseph, pour découvrir Saint-Joseph ?
Oui.
Écoutez, je vais vous partager une intuition. Ne croyez pas que c'est une publicité déguisée, parce que c'est une réelle intuition profonde. Je crois qu'on ne peut pas connaître quelqu'un, vous allez voir, c'est une évidence, on ne peut pas connaître quelqu'un avec des discours. Au plus on me parlera de vous, au plus je saurai des choses sur vous. Mais c'est en passant une semaine avec vous que je saurai mieux qui vous êtes. Voilà. Et je crois que c'est ce qui manque le plus, c'est qu'on peut facilement vouloir entendre des choses sur Saint-Joseph, et on entend des choses très diverses, des sérieuses et des trop superficielles, ou bien le cantonner à la dévotion, c'est-à-dire j'ai fait un pèlerinage, ou j'ai dit, il y a la fameuse note 10 là, de cette lettre, où le Saint-Père fait la confidence que depuis 40 ans après l'office des Lodes, il dit tous les matins la même prière à Saint-Joseph et il nous la donne en partage au glorieux patriarche. Bon, donc ça c'est une autre tentation, de dire, je dis mes prières à Saint-Joseph, donc il va s'occuper de moi. Et moi, ce que je souhaite, ce que je désire partager, parce que c'est ce que j'ai un peu découvert, c'est vivez avec lui. Cherchez à vivre avec lui. Et c'est dans ce compagnonnage au quotidien que vous allez découvrir qui il est. Et en réfléchissant à ça, j'ai eu l'idée, enfin nous avons eu, parce que c'est un projet communautaire, de proposer une retraite. C'est la dernière semaine de juillet, j'espère qu'elle aura lieu, qu'on sera sorti des problèmes, du 26 au 30 juillet. Une retraite pour vivre avec Saint-Joseph, pas pour entendre parler de Saint-Joseph. Bon, on entendra parler de lui, évidemment. Pas pour prier Saint-Joseph. Ben, bien sûr qu'on priera Saint-Joseph, mais pour vivre avec lui. Vous savez, dans la tradition biblique, il y avait ce qu'on appelait les bêtes midrash, si vous voulez, des écoles bibliques. Ou bon, il n'y avait pas l'instituteur de la Troisième République, hein, évidemment. Donc, c'était le sage du village qui récupérait les gamins dans sa maison. Et même pour ce qui est des disciples qui cherchaient un maître, ils vivaient avec le maître. Donc c'est toute une autre ambiance que l'enseignement magistral qu'on peut recevoir en fréquentant la faculté. Quand on suivait un maître, la première chose qu'on faisait, c'était de lui acheter le journal ou de cirer ses chaussures, vous comprenez ? Je veux dire au sens où on partage son quotidien, on fait les courses, on fait la vaisselle, et puis c'est comme ça que se transmet l'essentiel. Évidemment, il faut des données théoriques. Évidemment, il y a des choses à apprendre par cœur. Évidemment, l'esprit a besoin de travailler. Mais les bêtes midrash, c'est des lieux de vie. C'est des lieux de partage. C'est des lieux de prière. C'est des lieux où on se connaît parce qu'on vit ensemble et parce qu'on se fréquente. Et donc, nous avons imaginé une retraite qui essaye de recréer ça, parce que c'est finalement ce que nous vivons, nous, dans notre vie monastique, ce compagnonnage avec Jésus et Joseph et Marie tous les jours. Avec, voilà.
Et ben rendez-vous est donné, c'est en juillet dernier, et puis il y a d'autres rendez-vous d'ici là, le 19 mars, à l'occasion donc de la fête de Saint-Joseph, pèlerinage et autres rassemblements, et le 1er mai aussi, vous me disiez.
Gros rassemblement du pays, oui, tout à fait.
Voilà, qui est traditionnellement, donc cette fête évidemment dédiée à Saint-Joseph, à l'occasion de cette fête du travail. Un site internet pour vous retrouver, www.fsj, tout simplement, www.fsj.fr. Un grand merci à vous.
Merci
de nous avoir pris par la main. Je rappelle une dernière fois le titre de la lettre apostolique du pape François à parcourir. Ça n'est pas très long, 14 pages au total. Patrice Cordet, un cœur de père. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.